proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Yva Zeroual, qui nous parle de son second roman, Faubourg Montmartre, qui vient de paraître aux éditions Le Passeur Éditeur. Bonsoir Yves.
Bonsoir Sandrine.
Vous étiez déjà venu ici pour présenter votre premier roman Moufti, un succès d'édition qui aborde la collaboration du grand Moufti de Jérusalem avec le régime nazi. Et aujourd'hui, votre actualité, c'est la parution d'un roman consacré à la famille Zemmour, des frères qui ont fait les riches heures du grand banditisme parisien pendant les Trente Glorieuses. Vous l'écrivez d'emblée, hein, toute ressemblance avec des personnes ou des événements existants ou ayant existé n'est pas qu'une pure coïncidence. C'est de Sétif, en Algérie où ils sont nés, à Paris où ils sont arrivés, vous romancez l'histoire vraie des frères Zemmour, des gangsters entrés dans la légende. Roland, Théodore, William, Gilbert et Edgar ont tous baigné dans les affaires scabreuses du milieu, contrôlant en leur temps tous les réseaux interlopes, proxénétisme, raquettes, jeux, escroqueries en tout genre, mais aussi les courses hippiques et plus tard, l'art et la drogue. Quelle matière incroyable vous avez eue pour conter cette histoire vraie, hein, celle des frères Zemmour. Et à vous lire, on se pose à chaque instant la question de savoir ce qui est vrai et ce qui relève de la littérature. Alors la première question qu'on aimerait vous poser, est-ce que la réalité ne dépasse pas la fiction chez les Zemmour? Et finalement, est-ce que ce constat n'est pas le point de départ de votre écriture?
Vous avez dit en préambule les riches heures, j'ai envie d'ajouter les riches et sanglantes heures de la famille Zemmour. Alors ça, c'était une petite parenthèse.
Parce que c'est très sanglant, il y a des morts, c'est vraiment le grand banditisme.
Voilà, c'est des flics et des voyous à l'ancienne. Alors c'est vrai que le code d'honneur, dit-on, existait à cette époque, mais malgré tout, in fine, on ramasse des morts sur les trottoirs. Et la vie même des Zemmour, des frères Zemmour, est parsemée de morts, mais aussi de leur propre mort, de leur propre destin, etc. Alors pour revenir à votre question, c'est... est-ce que tout est vrai, etc. Alors, j'ai voulu combler les vides dans leur biographie. C'est-à-dire qu'on connaît des Zemmour, les grandes étapes de leur parcours meurtrier, sanguinaire, criminel. En revanche, on sait peu de choses sur leur vie propre, leur famille, leurs attentions, enfin tout ce qui fait pour un romancier ce côté un peu croustillant et intéressant. Donc, je leur ai prêté à certains d'entre eux un autre destin, parce que si on résume la vie des Zemmour telle qu'on la connaît, c'est des truands, des criminels, des parrains, et ils meurent. Or, pour un romancier, il fallait donner un peu plus de chair. Et c'est pour ça que j'ai introduit un personnage féminin.
On va en parler dans un instant.
Si vous
me permettez.
Donc, bien sûr.
La jeunesse de cette histoire, pourquoi s'intéresser aux frères Zemmour? Justement parce que leur histoire dépasse la fiction?
Parce que c'est une incroyable... D'abord parce que ça raconte la France des années 60 aux années 80. Parce que c'est le grand banditisme, parce que moi j'ai toujours été intéressé par le polar, par l'enquête policière, par cette confrontation entre les méchants et les gentils, et c'est ce qui m'a intéressé. Et puis aussi ce qui m'intéressait en toile de fond, c'est cette origine juive, c'est cette proximité avec la communauté juive. Bon, ils ont fait beaucoup de raquettes, ils ont racketté les commerçants du Faubourg, mais aussi du Sentier. Aussi pour de nobles raisons, parce qu'ils ont participé à l'effort de guerre d'Israël pendant les années, pendant la guerre des six jours. Ils sont allés racketter. Alors c'était moins du racket que les solliciter pour financer l'effort de guerre israélien, les commerçants du Sentier, etc. Bon, je ne sais pas où est passé l'argent. Est-ce qu'il a vraiment atterri en Israël? Je l'ignore, mais en tout cas, ils ont fait cet effort-là. C'est-à-dire que c'est imbriqué. Déjà dès l'enfance, déjà dès Sétif, ils étaient proches de la communauté juive. Je crois que le père Zemmour, Raymond, était un de ceux qui était... je ne sais pas exactement quel travail il faisait au sein de la communauté, mais bon, il était proche du rabbin et du président de la communauté.
Alors, le titre du roman, c'est pas Les Frères Zemmour, c'est Faubourg Montmartre. Hein, vous le disiez un instant, un endroit important pour la communauté juive, celle des séfarades fraîchement débarqués d'Afrique du Nord et fief central des Zemmour. Est-ce que c'est un quartier qui vous parle?
Oui, c'est un quartier qui me parle. J'y ai vécu. Quand j'étais ado, j'y allais pour dîner. Il y avait une majorité de restaurants cachers là-bas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors, j'ai un ami qui est un des restaurateurs qui est assez connu dans la communauté, qui s'appelle Zazou, et que j'ai rencontré très récemment, juste avant la sortie du livre. Et il me disait qu'à la grande époque, il y avait plus de 20 restaurants cachers dans ce quartier. Aujourd'hui, il en reste 2-3. Alors, ça s'est boboisé, ce quartier, etc. Mais à l'époque des Zemmours, c'est vraiment le fief de la communauté juive avec le sentier, mais c'est le sentier, c'est le fief commercial, des boutiques, etc. Or, là-bas, pourquoi les Zemmours arrivent là-bas? Parce qu'il y a déjà, avant leur arrivée, des familles juives qui tiennent le quartier, les Atlan et les Perret. Et c'est là-bas où ils retrouvent les saveurs, les odeurs de leur Algérie ou de leur Maghreb natal. Et c'est pour ça qu'ils s'y installent, parce que ça leur permet à la fois de retrouver ces odeurs-là, mais aussi de recruter. Parce qu'à l'époque, les juifs séfarades, et même ceux qui n'étaient pas juifs, les pieds noirs d'Algérie, venaient là-bas pour dîner. Et c'était aussi une adresse qu'on se refilait sous le manteau pour trouver du boulot. Alors, pas du boulot tel qu'on peut le proposer de manière honnête, etc., mais pour être des porte-flingues, des balances, des indiques pour les mafias locales.
Alors, il y a plusieurs registres qui se recoupent dans votre roman. D'abord, l'histoire de Roland, l'aîné des Zemmours, qui doit fuir sétif pour Paris. Après avoir assassiné le fils du colonel de la garnison, il finira assassiné lui aussi. Ensuite, les frères de Roland qui arrivent à Paris pour le venger et développent les affaires des Zemmours. Et puis, entre les deux, vous l'avez abordé tout à l'heure, il y a la mystérieuse Catherine, la compagne de Roland, qui deviendra celle aussi d'un des frères Zemmour. Et elle est finalement le fil conducteur du roman. La question, c'est pourquoi ce choix? Est-ce que c'est inspiré par l'air du temps? On voit que ce personnage, c'est une femme forte qui dépasse un trauma qu'elle a subi dans l'enfance, et on est en plein dans Balance ton porc, quelque part.
Si on résume la vie des Zemmour, c'est du flingage. Il fallait apporter une touche féminine et une pirouette romanesque qui permet de faire avancer l'enquête, qui permet de faire avancer d'abord le destin des Zemmour, et un personnage féminin qui ait été à la fois la maîtresse de l'aîné des Zemmour et après la maîtresse du cadet. Ça m'a permis au fil de l'écriture d'abord de faire rebondir l'enquête et aussi de trouver ce personnage-là, de féminiser cette atmosphère-là, ce qui aurait été résumé simplement par des gros bras, des guerres de gangs, des fuites entre les flics et les voyous, etc. Donc c'était important pour moi d'avoir ce personnage-là, qui après va avoir une autre vie avec d'autres femmes. Mais bon, on raconte pas la
oui,
fin. Mais
il faut le lire. Alors, est-ce qu'elle a vraiment existé?
Sans doute.
Oui.
Elle a existé, alors pas sous cette forme-là, mais il y avait beaucoup de femmes, outre les prostituées, il y avait autour des Zemmour leurs épouses, mais aussi leurs maîtresses. Je crois qu'un des frères Zemmour était bigame, quand il a fui en Espagne, enfin quand il a fui, non, quand il a préféré
prendre
du recul, parce qu'il était menacé par d'autres gangs, en Espagne, on le voit partir pour l'Espagne avec sa femme et sa maîtresse et leurs enfants respectifs.
Mais ce personnage de Catherine qui est fascinant, qui est très complexe en même temps, épouse par la suite d'un aristocrate. L'aristocrate se suicide après la mort de son père que Catherine a contribué à assassiner. Ça, c'est des faits réels?
Non.
Non?
Ça, je l'ai inventé.
Alors, c'est une question qu'on ne doit pas poser normalement à un romancier. Mais la part de réalité, la part de fiction, elle est à quel pourcentage? Pourquoi je vous pose cette question?
Oui, oui.
Parce que c'est absolument terrible de se dire que l'essentiel de ce qui se passe est vrai, d'un point de vue...
Tout ce qui est... alors, c'était des... J'ai édulcoré, c'est-à-dire que c'était des criminels, c'était des gangs, des membres de gangs, c'était les parrains du milieu. Pendant 20 ans, les frères Zemmour ont été, des années 60 aux années 80, les parrains du milieu. C'est-à-dire qu'ils étaient non seulement respectés, craint par l'ensemble des autres familles qui étaient là. Alors, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, c'est que tout ce que je raconte dans les conflits avec les Atlans et les Perret au début de l'ascension des Zemmour, avec les Corses dans leur mainmise, la mainmise des Zemmour sur les casinos, ça c'est vrai, le gang des banlieues sud, ça c'est vrai, etc. Après, je leur prête un destin différent. Par exemple, Edgar et Gilbert ne sont pas morts tels que je les montre. Je fais mourir Edgar en Israël parce que c'est un clin d'œil. En revanche, Edgar est allé en Israël.
D'accord. Alors, on peut dire un mot de ça. Hein. C'est que le marché parisien-français ne leur suffit pas et le plus bagarreur des frères, le plus jeune, le Benjamin Edgar, part à la conquête du milieu en Israël et il finit lui aussi assassiné. Et la question qu'on se pose, c'est que finalement, c'est plus difficile de s'imposer en Israël parce qu'en France, on a l'impression que c'est un boulevard qui leur est ouvert.
C'est-à-dire qu'ils ont gagné leur galon de mafia en France parce qu'ils ont conquis avec les armes le terrain. Or, ils ignoraient à l'époque, on est dans les années 70, qu'il y avait une mafia en Israël. Et quand Edgar débarque, et tout ça c'est vrai, quand Edgar débarque en Israël, il commence par ouvrir des restaurants, à essayer de plastiquer d'autres restaurants, de s'imposer. Or, il y a deux mafias importantes. Il y a la mafia russe et yéménito-marocaine, ou maroco et yéménite. Et là, il est confronté à cette mafia. Il pensait que c'était le pays où coulait le lait et le miel. Il a oublié qu'il y avait aussi le sang comme élément important. Et il a été rejeté. Alors moi, je le fais mourir là-bas, en Israël, qui était à ses yeux la terre promise. Mais c'est vrai qu'il a été rejeté, que les Zemmour ont fui. Et ça a été le commencement de la fin de la toute-puissance des Zemmour. Après, ils se sont redirigés vers l'Allemagne, vers l'Espagne, ceux qui ont pas créé, mais fourni l'essentiel des prostituées aux zéro center de Düsseldorf, de tout le pays, de toute l'Allemagne de l'Ouest à l'époque.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwarz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, avec Yves Azéroual qui nous parle de son roman Faubourg Montmartre chez Le Passeur Édition. Une histoire totalement fascinante. Les Zemmour étaient vraiment les grands de la pègre. Ils dominent tous les milieux. D'abord le leur, vous l'avez dit, celui de la communauté juive des Pieds Noirs, mais aussi la mafia italienne, les Corses. Est-ce que finalement, ce n'est pas un grain de folie qui fait qu'ils réussissent partout?
C'est surtout un grain de folie. D'abord, je pense pas que la génétique soit importante dans leur cas. En revanche, ils avaient une enfance très compliquée, très pauvre. Il y a deux phénomènes importants. Il y a une revanche sociale et une vengeance. La revanche sociale, c'est que à Sétif, ils sont 9 enfants. Hein, il y a les 5 garçons, mais aussi 4 filles. Donc, il n'y a pas beaucoup à manger, beaucoup à vivre dans cette famille nombreuse, d'une part. Et il y a la vengeance. C'est-à-dire, quand ils sont à Sétif et qu'ils apprennent que leur frère Roland, après 9 mois passés à Paris, Roland qui est l'aîné, qui vient à Paris pour être mécano, mais qui très vite oublie ce métier et va faire le proxénète, hein, il est flingué au bout de 9 mois. Hein. Son corps est abandonné sur le trottoir de la rue Blondel, tué par un concurrent mécontent. Et quand ils apprennent ça, c'est ce moteur de la vengeance qui va les pousser à venir en France. Et ils n'ont pas de métier, ils n'ont aucune expérience, ils n'ont aucune culture, ils n'ont pas fait d'études ou très peu, l'école n'aurait pas été très favorable. Ils font quoi? Ils démarrent par la petite escroquerie, ce qu'on appelle le bidonnage ou les trousseaux. Alors les trousseaux, c'est la vente de linge de maison, ils ont été un des initiateurs de ça. Et le bidonnage, c'est qu'ils vendaient de la piquette, hein, du vin bas de gamme, en mettant des étiquettes haut de gamme à des gens. On est dans les années 65-70, il n'y a pas encore les grands centres commerciaux. On vient de passer dans le nouveau franc, etc. Il y a très peu de téléphones, très peu de moyens de communication. Donc, ils vont dans les villages en France et ils arnaquent le tout venant.
Alors, ça aurait pu les refroidir aussi, la mort du frère aîné. Et on se dit, les parents, finalement, ils ont laissé faire. Et puis, il faut quand même, pour en arriver à un tel niveau de grand banditisme, un peu de folie.
Alors,
Ou d'avoir peur de rien.
Oui, c'est d'abord. Alors, je décris pas leur enfance, mais j'ai étudié leur enfance. C'est des bagarreurs. Hein. Il y avait le livre faisait plus de 100 pages supplémentaires. Donc l'éditeur a décidé de les supprimer. Peut-être ça fera l'objet d'un tome 2. Je décrivais un
alors
peu.
Alors, dites-nous justement de quoi vous parlez.
C'était des bagarreurs assétifs. Ils rentraient souvent quand le plus jeune Edgar ou celui qui était avant lui, Gilbert ou William, rentrait après une bagarre. Roland et Théodore, les deux aînés, allaient faire le coup de poing avec avec des petits juifs, mais aussi des petits arabes du quartier, etc. Ils étaient réputés, d'ailleurs, à telle enseigne que le maire de la ville les utilisait pour dans ses campagnes électorales pour aller faire du collage d'affiches électorales, parce que c'était des gros bras, c'était des bagarreurs.
Et les parents dans tout ça ?
Alors, les parents étaient complètement dépassés. Raymond et Clairette, alors, c'est ils sont du début du XXe siècle, ils ont 9 enfants à nourrir, plus, à mon avis, toutes les fausses couches qu'elle a dû subir, ça a été terrible. Elle a été complètement dépassée. Elle a déjà 5 garçons aînés après 4 filles. On est dans la famille traditionnelle juive, donc les femmes, elles sont un peu, à cette époque, mises de côté. On attend simplement qu'elles se marient et qu'elles aient des enfants et qu'elles puissent quitter le foyer. Le père, il n'était pas trop... lui aussi, il était non pas alcoolique, mais il aimait bien rejoindre ses amis au café de chez Maclouf sur la place de Sétif.
Oui, pas très présent pour ses
Pas
pour
très
ses
présent,
enfants,
non, ouais. Pas très présent.
Finalement, après, les Zemmour font vivre toute leur famille, les parents, les sœurs, les beaux-frères, etc.
Après, ils deviennent à la fois célèbres, riches, puissants. Et évidemment, ils vont employer leur sœur. Il y en a une qui les quitte très rapidement parce qu'elle n'est pas d'accord avec leur manière de vivre, on va dire, c'est un euphémisme. En revanche, les autres bénéficient de leur générosité.
Il y en a un aussi, des frères, qui quittent tout ça, hein, qui décident de fuir ce grand banditisme. On sait ce qu'il est devenu ?
Alors, le dernier des Zemmour, qui est le cadet, qui est Théodore...
Qui est le seul en vie, alors.
Il vient de décéder à l'âge de 90 ans,
oui.
Après que tous ses frères ont été assassinés, parce qu'ils ont tous été tués. Il a décidé d'ouvrir un commerce aux Antilles, et il est mort il y a peu de temps, quelques années à peine, à l'âge de 90 ans. Mais ils ont tous été inquiétés. Il a quand même participé aux exactions de ses frères. Mais bon, ils ont tous fait de la prison, ils ont été jugés, etc. Mais pas à la hauteur de leurs crimes. Voilà, donc Théodore a été le dernier. Maintenant, il y a les enfants, les petits-enfants, etc., qui sont toujours présents, qui ne sont pas dans le crime, sauf un qui a été en prison, le fils d'Edgar, justement, qui a été en prison aux États-Unis. Il s'appelle Zeb, c'est un musicien. Il a eu un parcours assez compliqué, mais voilà.
Alors, les autres sont où, les autres enfants ? Ils sont en France, et en Israël ?
Il y en a en France, il y en a en Israël, il y en a aux États-Unis. Ils sont assez discrets. C'est dur de porter ce nom de Zemmour, à la fois pour des raisons d'histoire et aussi peut-être parce qu'il y a un chroniqueur...
Oui, alors on va l'évacuer tout de suite, hein, il n'est pas de la famille.
Si.
Si.
Alors pas directement, oui. mais disons que les grands-parents sont frères et sœurs, si, tout à fait.
D'accord.
Éric Zemmour, c'est un par alliance, c'est un cousin par alliance, si, tout à fait.
D'accord, donc des Zemmour de Sétif.
Des Zemmour de Sétif.
C'est une histoire vraiment, c'est extraordinaire, hein, de se replonger dans la saga des Zemmour. Est-ce qu'on se souvient encore d'eux, quand on est juif, quand on n'est pas juif, quand on est plus jeune ?
Écoutez,
est-ce que ça parle encore, les Zemmour ?
Alors écoutez, depuis que j'ai sorti ce roman, alors sur les réseaux sociaux ou même autour de moi, et je ne vous cache pas le nombre de personnes qui, de près ou de loin, ont un rapport avec les Zemmour. On m'a raconté une anecdote, si vous voulez, je vous la raconte. Ouais. Un ami me raconte que son père, originaire de Sétif, quand il est arrivé dans les années 60 à Paris... Évidemment, il cherchait un boulot. Bon, alors, c'est l'époque des Trente Glorieuses, il y a plein de boulot, mais il arrive au Faubourg Montmartre et un épicier de sa connaissance lui dit « Bah écoute, tu cherches un boulot ?» Et il lui tend un numéro de téléphone et un nom. Il lui dit « Va voir Gilbert Zemmour. » Il ne le connaît pas. On lui indique où il se trouve. Il va dans le café de Zemmour. Et Zemmour lui répond « Tu veux du boulot ? Je vais te donner... » Je vous assure que c'est vrai, parce que le mec me l'a raconté. Le fils du père concerné, il lui dit « Je vais te donner 20 mètres rue Blondel avec 3 filles, tu vas t'en occuper. » L'autre, il a tourné les talons, il est parti. Mais c'est une histoire vraie. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. C'est-à-dire, il y avait à la fois une toute-puissance et un peu de...
Une banalisation du crime, finalement.
Tout à fait. C'est une banalisation du crime.
Le livre est sorti depuis quelque temps, on est en pleine pandémie. Est-ce que c'est difficile d'écrire et de publier un livre en période de corona ?
Alors, c'est pas difficile parce que... Alors, moi, j'ai l'habitude, étant à la fois ou écrivant des livres, des essais, des romans, et aussi réalisant des documentaires, j'ai besoin d'être chez moi enfermé. Donc ça facilite justement, parce qu'on n'a pas de sollicitation extérieure, d'une part. Et d'autre part, je pense que, et je le vois avec le premier succès de Moufti, qui était aussi sorti pendant le premier confinement et celui-ci, que les gens lisent de plus en plus. Ils sont intéressés. Alors, hélas, ça ne profite pas aux libraires, ça profite aux plateformes, aux grandes plateformes, mais c'est peut-être
Profite aux livres.
Ça profite aux livres, tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous en parler sur un nouveau projet? Qu'est-ce qui attire votre attention en ce moment?
Alors là, je travaille sur un prochain documentaire. J'essaye d'alterner entre un livre et un documentaire. Donc je travaille sur un prochain documentaire avec mon camarade Yves Doré. Un documentaire sur les relations entre les intellectuels et les candidats à la présidentielle. Alors ça va du général de Gaulle à Macron en 2017. Pourquoi les intellectuels s'intéressent à la politique? Et pourquoi les politiques sollicitent les intellectuels, les candidats sollicitent les intellectuels. Voilà, c'est un peu ce pas de deux qui nous intéresse.
Et une idée de roman?
Pas encore, mais je vais y travailler.
Ça ne saurait tarder. Il y a une question classique, mais néanmoins difficile, pour conclure cette émission. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire votre roman, qu'est-ce que vous leur diriez?
Alors, pour ceux qui sont amoureux du polar en général, je pense qu'ils y trouveront leur compte, parce que il y a un papier qui vient de rendre compte de mon livre et qui a dit c'est un des romans, un des polars dignes des plus grands polars, donc je suis vraiment très honoré de cette remarque. Ensuite, c'est aussi une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour de cette femme, de Catherine. Vous l'avez dit, qui a un traumatisme d'adolescente. On n'en parlera pas, mais je le décris dans le roman. Et c'est aussi ce conflit qu'elle a, elle, entre... C'est une bourgeoise à l'origine qui est confrontée à ce monde d'aventuriers, qui est sensibilisée, qui est admirative même, et qui va jusqu'à accompagner les Zemmour dans leur ascension criminelle. Et donc c'est tout l'intérêt à la fois psychologique et de comprendre pourquoi cette fille-là, dont tout devrait la détourner de ce monde-là, pourquoi elle est attirée par ce monde.
Alors, pour toutes ces raisons, moi, je vais en rajouter quelques-unes. C'est un roman, c'est un thriller, parce qu'il y a une vraie charge émotionnelle et on essaie de savoir ce qui va se passer. Puis en même temps, c'est un fondement historique. Donc, pour au moins ces trois raisons, eh bien, c'est un livre que l'on recommande. Merci en tout cas infiniment, Yves, d'avoir parlé avec nous de votre actualité. Je le rappelle, donc la parution du roman Faubourg Montmartre aux éditions Le Passeur Éditeur est un livre à lire et à offrir en cette période de crise sanitaire. Bonsoir, à bientôt.
Bonsoir, merci Sandrine.